Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et c'est l'événement ici en direct de Doha, donc dans Rotten sans flamme, puisque nous sommes avec le sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine lors de la phase de poule avant de se faire éliminer. Hervé Renard est dans Rotten sans flamme.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir à vous.
Merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation dans Rotten sans flamme. Déjà, comment tu vas après cette Coupe du Monde?
Bah, je vais très bien. On vit une superbe Coupe du Monde. Et puis, avec les deux matchs qui arrivent en perspective, notamment ce France-Maroc, c'est pour ça que je suis là avec vous.
Ouais.
Parce que je connais un petit peu le football marocain et beaucoup de ces joueurs qui vont évoluer contre l'équipe de France. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle je suis venu. J'aime bien être silencieux, mais c'est un honneur pour moi de parler du Maroc.
Oui, parce qu'on rappelle qu'Hervé était le sélectionneur donc du Maroc de 2016 à 2019 jusqu'à cette élimination 8e de finale de la CAN et la démission que vous avez présentée derrière.
Ouais, et Hervé, avant de parler du Maroc, moi j'ai envie de revenir sur cet exploit, sur le premier match de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Personne s'y attendait, à part toi certainement et tes joueurs, on l'a vu que vous avez bien préparé. Mais qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là, cette joie forcément de marquer les esprits comme ça?
Bah déjà, la première chose, c'est l'Ousail Stadium. C'est ce soir, Croatie-Argentine dans ce stade. La finale de la Coupe du Monde aura lieu dans ce stade. Un stade de 85 000 places, 90 000 peut dire. Et avec des Argentins qui plus est à l'intérieur du stade, c'est quelque chose de phénoménal. C'était une ambiance comme j'en ai jamais connue avec cette affluence. Donc c'est un jour inoubliable. Après, tout a bien fonctionné, on va dire. Tout avait mal commencé, mais tout s'est bien terminé. Ouais. C'est la beauté du football. C'est ce que réserve le football depuis le début aussi de cette Coupe du Monde. Donc peut-être qu'on a montré la voie à certains. Et si tel est le cas, ben, tant mieux. Et puis nous, ça restera surtout dans l'histoire de l'Arabie Saoudite un résultat historique.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Quand tu gagnes comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de regret par la suite de t'être fait éliminer?
En toute sincérité, l'objectif, c'était de se qualifier pour les huitièmes de finale avec en perspective, et on l'a vu... un match possible contre l'équipe de France. C'était écrit, planifié. Ça ne s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité et comme je l'aurais pensé. Après la première victoire contre l'Argentine, bien sûr, mais ça n'a pas changé, ça ne m'a pas fait changer d'idée. J'avais la même idée et les joueurs avaient les mêmes idées. Maintenant, on ne peut pas l'annoncer quand on est une équipe comme l'Arabie Saoudite. On ne peut pas se dire notre objectif, c'est de se qualifier pour les huitièmes. Moi, je préfère toujours être un petit peu plus
mesuré
et puis ensuite créer une surprise comme on l'a fait. Je sais que au bout des trois matchs, ça serait difficile contre des adversaires de haut calibre, notamment le Mexique et la Pologne. Donc voilà, si on ne s'est pas qualifié, c'est certainement qu'on ne méritait pas de se qualifier. Et on retiendra une expérience fantastique et une source de progression qui va nous aider pour le futur.
Et alors sur ce match contre l'Argentine justement, vous avez parlé du contexte, ce stade de l'Ousail, les Argentins dans la tribune. Et pourtant, vos joueurs ont réussi à faire abstraction du contexte. Et il y a cette fameuse vidéo de votre causerie à la mi-temps du match qui est devenue virale. Tous les réseaux sociaux s'en sont emparés, où on vous voit dans ce discours en anglais pour remotiver vos joueurs et aussi pour dédramatiser l'événement avec cette fameuse phrase que vous dites à un joueur, si tu veux faire une photo de Messi, vas-y, n'hésite pas. Mais c'était ça le but de cette causerie, de dédramatiser l'événement?
Déjà, pour remettre dans son contexte, normalement, le service communication de la Fédération saoudienne me demande pour mettre les vidéos. Et là, on ne m'a pas informé.
Okay.
Je pense surtout parce que ça a fonctionné. Vous pensez bien que si ça n'avait pas fonctionné, ils auraient gardé ça dans un tiroir.
Au chaud,
ils auraient même effacer la bande. Donc voilà, ça a fonctionné. Ils s'en sont servis pour une communication qui est tout à fait normale.
Et vous regrettez un peu, j'ai l'impression, que ce soit sorti. Ouais, vous, en tant qu'entraîneur, vous n'avez pas spécialement envie que l'on voit ça ?
Non, c'est pas, je pense pas. On ne l'a pas vu dans d'autres équipes, donc ça peut être interprété de, comme si on faisait un show. Mais moi, je ne suis pas venu à la Coupe du Monde pour faire un show. Je suis venu à la Coupe du Monde pour réussir à battre nos adversaires. C'est ce qu'on a fait. Pour revenir à un petit mot sur la causerie, vous savez, ça fait 20 ans et plus que j'entraîne. Il y a des fois, ça n'a pas fonctionné. Mais celle-ci, elle a fonctionné à merveille. Donc, bien sûr, elle a fait le buzz.
Ouais, mais Hervé, ça montre ton tempérament, ça montre ta personnalité. Il y a ça aussi. Alors après, moi, j'en doutais pas. Et je te cache pas, c'est pas parce que tu es là. Je trouve que en France, on n'a pas forcément c'est pas une image, mais tes compétences sont pas mises en avant. Comme elle devrait. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir que sur ce premier match, en effet, il y a plein de choses qui ont fonctionné.
Toi, te connaissant, t'aurais été réceptif à un tel discours à la mi-temps ?
Oui, parce que des fois, j'avais besoin d'être secoué, mais pas tout le temps, hein, attention. Hein. Donc, il y a des fois, oui, où tu t'endors parce que t'as l'impression que t'es le meilleur. Et puis même quand tu joues des adversaires de renom avec des grands joueurs en face, par moments, on est plus dans l'observation qu'autre chose. Et donc moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé que ça sorte en effet. Et puis surtout, ça montre encore que moi, je reste persuadé qu'il y a des dirigeants en France qui peuvent t'appeler pour de nouveau tenter une expérience en France. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Je sais pas si c'est ça que tu souhaites, toi, au bout d'un moment. Mais voilà, moi, ça m'a fait plaisir de te revoir tout là-haut, quoi.
Aujourd'hui, c'est pas de circonstance et je vous avoue sincèrement que j'y pense pas. J'ai vécu cette deuxième Coupe du Monde puisque j'ai eu la chance de faire en 2018 avec le Maroc. On y reviendra avec notamment des matchs aussi de haute facture mais qui n'ont pas toujours été soldés par des résultats positifs. Un peu à l'image de ce qu'a fait le Canada cette année en produisant beaucoup de jeux, en faisant des matchs splendides mais le résultat n'était pas au bout. Ben, nous, ça a été notre Coupe du Monde 2018 pour diverses raisons. Des erreurs, je pense, d'arbitrage, mais ça, c'est le football, c'est comme ça. Il y a prescription, maintenant, on ne va pas revenir dessus. Et quant à mon caractère, oui, bah, tout le monde le connaît un petit peu. Moi, je suis un compétiteur, je suis un gagneur. Ceux qui pensent que je suis venu dans cette zone du monde pour m'endormir ou pour rester en vacances, ils se trompent parce que ce n'est pas ce qui me fait avancer. Ce qui me fait avancer, et je n'ai pas peur aujourd'hui de le dire, c'est d'aller le plus haut possible au niveau sportif. Donc voilà, je ferai tout jusqu'à ce que j'arrête ma carrière pour y réussir. Maintenant, on donne le meilleur de soi-même, comme beaucoup d'entraîneurs. Parfois, ça fonctionne mieux que d'autres fois et comme on dit dans ma région, Inch'Allah.
Ouais, mais
dans votre région d'aujourd'hui, pas dans votre région d'origine,
ouais,
forcément.
Mais entraîneur de... J'avais eu cette discussion-là avec Didier Deschamps, entraîneur de club, sélectionneur, c'est un métier complètement différent. Est-ce que, par moment, au quotidien, ça ne te manque pas d'entraîner tous les jours ?
C'est deux métiers complètement différents, avec des caractéristiques de planification complètement différentes, une organisation complètement différente. Si on veut résumer le rôle de sélectionneur, beaucoup plus de pression, puisque la pression de tout un pays, sur de courtes périodes, de courtes compétitions, comme la Coupe du Monde, 3 semaines, 1 mois, bon, plus la préparation qui a été très limitée cette année. Et puis un championnat, c'est un marathon. Ouais. C'est, je pense, si on doit évaluer les deux, certainement plus difficile d'être entraîneur en club. Maintenant, il faut supporter la pression au niveau international et la pression de tout un pays. Lorsque vous êtes à la tête d'une sélection en Afrique, la vie s'arrête. Oui. Puisque tout le monde se focalise sur le football, c'est la passion. Vous pouvez voir ce qui se passe avec l'Argentine. Imaginez la pression que doit avoir Scaloni.
Ah ouais,
c'est terrible. Mais cette pression, on en a besoin. C'est l'adrénaline qui fait qu'on adore ce métier et qu'on fait ce métier par passion et pour rien d'autre.
Ce qui fait parler après l'expérience, ton magazine de l'expérience, pour revenir peut-être un jour dans un club, on sait pas. En tout cas, j'insiste là-dessus. Tu rigoles, mais j'insiste.
Mais justement, Jérôme, parce que tu nous as déjà dit dans l'émission que selon toi, il y a un problème, c'est qu'en France, on met très vite des étiquettes aux personnes. Et que Hervé, est-ce que vous avez l'impression d'avoir l'étiquette de meneur d'hommes, entraîneur de sélection et pas forcément de club ? Est-ce que vous souffrez de ça ?
J'en souffre pas, ça a été mes choix depuis une dizaine d'années. Voilà, si aujourd'hui je privilégie les sélections, c'est aussi parce que j'ai beaucoup plus d'offres au niveau des sélections que de clubs. Oui. Il faut être réaliste avec soi-même.
Et parce qu'en France, ce serait un choix un peu courageux de vous donner un club. Enfin, je veux dire, on a nos certitudes, nos habitudes, nos entraîneurs qui tournent et on a du mal à s'ouvrir en France.
Non, il y en a des nouveaux entraîneurs et il y en a des très bons. Regardez ce qui se fait à Lorient cette année.
Oui, Le Brice,
c'est fantastique. Et un petit hommage à Pélissier qui était avant lui, qui avait accédé à la Ligue 2 et l'accession avait été refusée avec l'USNAC. C'est un exemple. Oui. Mais il y a plein d'entraîneurs qui font un boulot fantastique, qu'ils soient français ou autres, quelque part, on s'en fout, ça, parce que ça, c'est un dialogue et une polémique dans laquelle j'aime pas trop rentrer. Oui. L'important, c'est les compétences, c'est comment on réussit à aborder la situation. Il y a des endroits où on va parfois, où on a peut-être mal jaugé la situation globale. Ouais. Et voilà, et ce qui fait que le coach est sanctionné, par exemple, à un tiers de la saison ou un petit peu plus. Sept coachs ont été remerciés en Ligue 1, c'est énorme. Mais il y a la pression des clubs, 4 relégations cette année. Voilà, il y a de l'impatience là. C'est le football qui veut ça. C'est pas destiné contre l'entraîneur. Souvent, c'est pas l'homme qu'on atteint, mais c'est la position d'entraîneur. Il faut l'accepter.
Hervé Renard dans Rotten sans flamme sur RMC.
Hervé, maintenant on va revenir à ton rôle de sélectionneur. Tu me parlais du Maroc tout à l'heure, que tu as bien connu, bien sûr, parce que tu as été à la tête du Maroc il y a quelques années. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe ? Quelle est la force du Maroc aujourd'hui ?
Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, si le Maroc réussit à atteindre ses résultats exceptionnels, ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Le prédire, bien sûr, que peu de monde aurait pu le faire, mais la politique du football au Maroc a démarré en 2009 avec la création de l'Académie Mohamed VI, où Nasser Larguette a été directeur pendant de nombreuses années. Ensuite, l'élection en 2014 du président Lakhdja a été quelque chose de fantastique pour le football marocain. Il a su donner une dynamique et une direction vers le haut niveau. Il a restructuré le championnat du Maroc, il a refait les pelouses qui sont fantastiques. Alors que c'est le continent africain et qu'on sait ô combien parfois c'est délicat d'avoir des pelouses de grande qualité. Il a mis les moyens sans regarder. Il a construit un centre technique national de très très haute qualité, qui n'a rien envié aux meilleures nations mondiales. Et plus l'apport de joueurs binationaux qui ont été formés dans d'autres pays comme la Hollande, la Belgique, la France ou l'Espagne, et ce multipote, on va dire, a fait qu'aujourd'hui, le Maroc récolte le fruit du travail de son président. J'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans et demi avec de nombreux joueurs qui jouent cette Coupe du Monde. Mmh. Ils ont acquis de l'expérience, ils évoluent maintenant dans des clubs plus prestigieux, mais ils évoluent dans des clubs plus prestigieux de par leur talent, parce que c'est des joueurs avec beaucoup de talent. Et je suis fier d'eux, j'en suis parti. Maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans, mais j'ai toujours le Maroc dans mon cœur, déjà parce que c'est un pays fantastique. Mmh. C'est aussi un public de passionnés. Je suis un peu long, mais c'est normal parce qu'on parle du Maroc et d'une révélation de cette Coupe du Monde qui restera un événement historique. Félicitations à Walid Regragui, que je connais personnellement très bien. Il ne doit rien à personne. Ce succès, il le doit à lui seul et à son président et à la fédération et à son staff. Parce qu'on sent une harmonie, une solidarité exceptionnelle. Et aujourd'hui, ils sont sur le toit du monde. Je leur souhaite d'aller encore plus loin. Et puis juste un petit, parce que certains médias marocains se sont permis de dire que je donnais des informations à l'équipe de France. Je pense qu'en toute humilité, l'équipe de France n'a pas besoin de moi pour recevoir des conseils pour savoir comment évolue le Maroc. Mais c'était juste une petite parenthèse.
Atypique. Mais
pardon, vas-y, Jérôme, vas-y.
Vu que tu parles avec beaucoup d'émotion du Maroc, et on le sent, pourquoi ça s'est arrêté
C'était ma question.
Voilà,
est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir donné cette démission à ce moment-là?
C'est des circonstances. J'ai eu des problèmes avec un membre de mon staff avec lequel je travaillais depuis 10 ans.
D'accord.
C'est en une des raisons pour laquelle j'ai voulu quitter le Maroc. On m'a donné, donc on ne va pas parler plus de ça, donné tous les moyens possibles et nécessaires pour bien travailler. J'ai vécu une aventure fantastique avec un groupe de joueurs dans un pays qui adore le football, qui aujourd'hui, je pense que la terre tremble au Maroc, tellement ils sont fiers et tellement ils le méritent, parce qu'il y a une telle passion qui parfois peut être excessive qu'aujourd'hui c'est une récompense exceptionnelle. C'est aussi une grande récompense pour le continent africain, et ils vont donner un élan exceptionnel pour les autres nations africaines qui doivent certainement croire plus en elles aujourd'hui. Et cette Coupe du Monde au Qatar restera comme quelque chose de magnifique, j'en suis sûr, pour le football africain et bien sûr pour le football marocain. Je suis français, je suis né en France, j'ai un passeport français, mais demain, je suis désolé, je supporterai l'équipe du Maroc parce que ce pays m'a marqué, les gens m'ont apporté de l'amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est souvent ce qui se passe dans ces pays, c'est soit on vous déteste, soit on vous adore. Et j'ai reçu tellement de choses que je partage un peu leur joie aujourd'hui tout en restant en retrait parce que j'ai simplement eu la chance de travailler avec eux et je leur souhaite le meilleur du monde pour demain.
Alors j'ai bien compris que pour vous c'était pas une surprise de voir le Maroc aussi loin dans la compétition parce qu'ils travaillent très bien. Est-ce que certains joueurs, en revanche, vous surprennent? Le niveau de certains joueurs. On a l'impression qu'Amrabat, c'est la révélation de la Coupe du Monde, peut-être un des meilleurs milieux de terrain de la compétition.
Bono, le meilleur gardien.
Aussi, voilà. Est-ce que le niveau de ces joueurs-là vous surprend?
Non, pas du tout, non. On va commencer par Yacine Bounou. Yacine Bounou, il a joué au WAC Casablanca avant de partir en Espagne. Il a été à l'Atlético de Madrid. Il était deuxième ou troisième gardien avant d'être prêté dans des clubs comme Gijón, par exemple, et puis d'avoir une évolution progressive mais constante pour aujourd'hui jouer au FC Séville. Quand on est gardien du FC Séville, on ne peut pas avoir un niveau moyen, c'est pas possible.
C'est un gardien de Liga, là,
c'est un des meilleurs clubs espagnols, peut-être dans le meilleur championnat qu'il puisse y avoir en Europe. Après, ça se discute, la Première Ligue, la Liga, mais c'est souvent les deux championnats qui reviennent sur le devant de la scène pour qu'on élise le meilleur championnat d'Europe. Donc voilà, concernant Sofiane Amrabat, Sofiane Amrabat, il a eu une évolution progressive également. Il était aux Pays-Bas, formé aux Pays-Bas. Son premier grand club, ça a été Feyenoord, où il a réussi à s'imposer. Ensuite, il a franchi un palier en partant à l'étranger en Italie. Et c'est un milieu de terrain qui, à l'image de son frère que j'avais en 2018, Nordin Amrabat, a des qualités athlétiques exceptionnelles. Il est capable de récupérer des ballons et on le voit après le cinquième match de la compétition consécutif. Il continue à courir dans tous les sens. Il donne une énergie à cette équipe. Il a une telle hargne communicative que c'est exceptionnel la Coupe du Monde qu'il réalise. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Il a débuté avec moi en sélection en 2017.
C'est peut-être pour ça, alors.
Non, c'est pas pour ça. Ils ont débuté de par leur qualité.
Ouais,
moi, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs de qualité et d'avoir un réservoir immense. Parce que le réservoir de joueurs marocains talentueux est immense. Et c'est certainement pas la dernière fois qu'on va reparler du Maroc sur la scène internationale.
Ah, tu penses que les prochaines générations, elles seront là aussi?
Il y a des joueurs de qualité exceptionnelle au Maroc. Le championnat s'est développé. Vous prenez les défenseurs centraux que vous connaissez certainement un peu moins, mais qui sont peut-être parés à suppléer Saïs et Aguerd. Aguerd a débuté au Maroc. En 2016, il a été champion du Maroc avec Walid Regragui, avec le FUS de Rabat. C'est là où je lui ai donné sa première sélection parce que d'une discussion avec Walid, j'avais été impressionné par sa prestance et son pied gauche dans la relance. Et d'autres comme Banoun qui rentrait à la fin du match, Dari, des défenseurs centraux, Ali Hamid qui a joué le dernier match, ont joué au WAC Casablanca, au Raja de Casablanca avant de partir à l'étranger après. Ouais, ouais. Mais ça prouve que le championnat du Maroc est de grande, grande qualité.
Quand tu parles du Maroc comme ça et que tu te dis qu'il y a des générations qui seront là pour assurer le Maroc à un certain niveau, est-ce que tu imagines un jour le Maroc pouvoir organiser la Coupe du Monde ou même l'Arabie Saoudite, parce que tu es sélectionneur aujourd'hui de l'Arabie Saoudite?
Oui, ils en sont capables. Ouais. Ouais. Ça avait été une volonté pour 2030 ou 2026. C'était ouais. 2026. Ouais. Ils ont concouru contre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi, mais je suis sûr qu'ils y reviendront. Et ils ont la capacité et surtout l'envie. Et c'est un territoire de football. Ça ouais, serait ouais. fantastique qu'une nouvelle fois... la Coupe du Monde soit en Afrique après l'Afrique du Sud en 2010. L'Arabie Saoudite, je peux déjà vous dire que c'est sûr qu'ils y arriveront un jour.
Ah oui.
Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Je suis pas, j'ai pas de boule là. De cristal, mais sur Terre ou...
Non, c'est les Saoudiens.
Non, quand même.
Et puis, un jour, ils y arriveront puisqu'ils ouais. organisent des événements aujourd'hui comme la Formule 1, de grands des ouais. combats de boxe mondiaux. Mmh. Donc, un jour ou l'autre, ils obtiendront cette candidature comme a réussi à le faire le Qatar.
Et vous êtes sous contrat jusqu'en 2027, vous avez prolongé en mai dernier avec l'Arabie Saoudite. Vous êtes épanoui?
J'ai prolongé mon contrat, mais j'ai une clause d'un an, donc c'est comme si j'avais un contrat d'un an.
Ah
donc,
d'accord, ok.
C'est une projection sur du moyen terme, d'accord. on va dire. Maintenant, le football réserve bien des surprises.
Bon, d'accord.
On ne sait pas ce qui peut se passer à tout moment.
Vous êtes approché par d'autres sélections, ça veut dire. Non, vous avez dit d'ailleurs pendant la Coupe du Monde que vous vous sentez pour entraîner une sélection un peu plus huppée.
Bien sûr, oui. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'habitude de parler comme ça. Je suis quelqu'un de nature assez réservé et qui essaye toujours de rester les pieds sur terre un peu modeste. Mais j'ai appris au travers de la communication que parfois c'était bien de délivrer des messages.
Savoir se vendre.
Voilà. Mais je le pense sincèrement. Maintenant je l'ai dit, voilà. Ça, de toute façon, mon objectif, c'est de, si je reste sélectionneur national, c'est de faire le plus de Coupes du Monde possible. Parce que c'est l'événement... le plus magique qu'il puisse y avoir pour un sélectionneur. C'est quelque chose d'incroyable. Et comme un entraîneur de club, la Champions League est aussi la compétition rêvée pour eux. Donc moi, c'est les Coupes du Monde. Et puis, j'ai rencontré un jour Bora Milutinovic. Peut-être les jeunes, la jeune génération ne le connaît pas. Et je lui ai demandé, coach, vous avez fait combien de Coupes du Monde? Il m'a dit 5.
Oui.
Donc ça m'a fait tilt dans ma tête, j'ai dit, il faut essayer de s'en rapprocher. Alors.
T'en es à combien là?
Deux.
Deux, ouais, bon, écoute.
Deux, et puis attention, la Coupe du Monde va passer à 48 équipes.
En plus.
Donc ça veut multiplier aussi les possibilités.
Ah non, mais si Hervé veut entraîner des grosses...
moi j'ai pensé à l'équipe de France, j'ai pensé à ça, parce que Didier Deschamps, on ne sait pas trop.
On ne sait pas, et il y a le Brésil aussi, le président de la Fédé du Brésil, il a peut-être appelé, non?
Allez, restez sérieux là. Non, prenons les choses.
En étant sérieux, Hervé, est-ce que tu penses, pour parler du match de demain soir, là, Maroc-France, tu nous as dit beaucoup de bien du Maroc, mais bon, c'est l'équipe championne du monde en titre qu'ils vont jouer les Français. Tout le monde voit les Français comme l'ogre de cette compétition. Tu penses qu'il y a, c'est réalisable quand même pour le Maroc?
Quand on est capable de faire match nul contre la Croatie, vice-championne du monde et de nouveau demi-finaliste contre l'Argentine, quand on est capable de battre le Canada, bon, ça peut paraître normal pour le Maroc, quand on est capable de battre la Belgique, l'Espagne et le Portugal, je pense que tous les Marocains aujourd'hui ne doutent de rien,
ouais.
puisqu'ils même quel que soit l'adversaire, quand on est dans une telle dynamique, demain, la pression, elle est plus sur l'équipe de France que sur l'équipe du Maroc.
D'accord.
Et quand on voit l'attitude qu'a dans les phases de replacement, dans les phases défensives du Maroc, c'est difficile de contourner ce bloc. Et puis, il faut faire attention aussi aux contre-attaques. Parce que Youssef En-Nesyri est un joueur de contre par excellence.
Et très efficace en plus.
Hakim Ziyech sur les coups de pied arrêtés. Attention, il est avec des joueurs, des défenseurs centraux qui sont très athlétiques et très bons dans le jeu aérien. Donc, c'est tous ces paramètres que l'équipe de France connaît déjà, mais qui seront à gérer pour l'équipe de France. Bien sûr, quand on regarde la valeur des deux effectifs, normalement, bien sûr, la France reste grande favorite. Mais vu ce qu'a montré le Maroc depuis le début de la compétition, on ne sait pas ce qui peut se passer.
Écoute, t'as raison, tu nous as pas rassuré hein, sur tout ce que t'as dit. mais par contre, il y a un truc où j'ai du mal, et moi je me bats avec beaucoup d'autres consultants ou des journalistes. Quand tu parles de pression, tu dis la pression elle est sur l'équipe de France. J'ai du mal à entendre ça de ta part parce que la pression elle est quand même énorme pour le Maroc. Quand t'es un joueur du Maroc aujourd'hui, une demi-finale de Coupe du Monde, automatiquement, tu as une pression qui est... Tu sais que tu as tout un pays qui est derrière.
Oui, mais quand tu es compétiteur, tu es dans la peau de l'équipe de France, dans le pot d'ultra favori, et tu as tout à perdre. Quand tu es dans la peau du Maroc qui vient dans cette Coupe du Monde pour se qualifier éventuellement pour un huitième, un quart de finale et que l'aventure se poursuit jusqu'aux demi-finales, quoi qu'il arrive, demain, l'aventure restera historique et exceptionnelle. Ouais. Donc, ils ont tout à gagner. Et la détermination, le soutien du public, qui demain sera énorme. Peut-être que vous n'imaginez pas ce que puisse représenter le soutien du public marocain, mais c'est quelque chose devant l'hôtel, peut-être aujourd'hui, peut-être ce soir. Ils seront 4-5 000 pour les supporter. Quand le bus va partir, c'est quelque chose de phénoménal. Donc voilà pourquoi je dis que cette équipe du Maroc n'a en quelque sorte que tout à gagner. Parce que de toute façon, la compétition, elle est déjà gagnée pour eux. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de phénoménal. C'est même pas exceptionnel, même pas fantastique, c'est phénoménal.
Ouais. Voilà. Bah, si vous en finale, ça sera encore incroyable, ça c'est sûr. Il y aura peut-être un jour férié aussi, comme il y a eu en Arabie Saoudite après votre victoire contre l'Argentine. J'ai entendu aussi, là, pour revenir, parce que ça me fait tilt en parlant de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, ils t'ont offert quoi quand tu as gagné contre l'Argentine? Une voiture en or
Non, on n'a pas eu de récompense. Il y a l'aspect médiatique où les gens fabule un petit peu en dehors de tout ça, mais il n'y a rien qui a été promis, il n'y a rien qui a été donné. C'est simplement la joie d'avoir battu l'Argentine, mais surtout une star iconique qui est Lionel Messi. Ouais,
ouais.
C'est surtout cet impact qui a résonné sur le continent, on va dire, pas sur le continent, dans cette région du Middle East. Parce que Lionel Messi, c'est quelque chose de... c'est un incroyable. Monument, c'est une légende. Donc,
Et tu l'as mis dans ta poche?
Non.
Non, mais je...
On a simplement bénéficié d'un premier match de compétition où l'Argentine mène 1-0 à la mi-temps. Ouais. À 2-3 situations sur des hors-jeux, où bien sûr il y a hors-jeu, mais ça peut se jouer à très peu de choses. Certainement un excès de confiance. En se disant, de toute façon, on va dérouler et puis ça se passera bien aujourd'hui. On va commencer la compétition d'une façon parfaite. Et puis, d'un seul coup, patatrac, on encaisse deux buts. Ils encaissent deux buts, coup sur coup, en 6 minutes d'intervalle. Et puis là, c'est le football. Tu l'as vécu en tant que joueur. Tu perds un peu les pédales. Un match de Coupe de France contre une équipe de 3e division. Voilà. Et puis, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Tu n'as pas l'énergie nécessaire et la motivation nécessaire pour transformer la chose. Et puis, en face, tu as une équipe sublimée par un public nombreux aussi, qui plus est à 45 minutes de vol de l'Arabie Saoudite. Et voilà, et c'est tous les ingrédients qui ont fait que ce jour-là, on a réussi un fantastique exploit, mais c'est comme ça, c'est le football.
Bravo.
Et c'est la beauté du football.
Hervé, avant de vous libérer, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une sélection que vous rêvez d'entraîner un jour? quelque chose que vous avez dans un coin de la tête comme, comme objectif, un pays qui vous ferait rêver, une façon de vivre le foot dans un pays qui vous ferait rêver et qui vous donnerait envie vraiment de, d'entraîner cette sélection.
Parce que Pascal Duprat, il rêvait d'entraîner Manchester United.
Bah oui, et Hervé avait répondu Liverpool, non ? C'est pas ça ?
Oui, moi je suis un grand fan de Liverpool. C'est un petit peu plus dur cette saison, mais... Ouais.
Une sélection ?
Non, j'ai pas de rêves spéciaux. Simplement, j'ai déjà entraîné sur deux continents des équipes nationales. Et j'ai peur de rien, de voyager, de vivre des expériences qui sortent un peu de l'ordinaire.
Amérique du Sud ?
Bien sûr, en restant dans un aspect compétitif, parce qu'il ne faut pas aller s'expatrier dans un endroit où on ne puisse pas gagner. De toute façon, il faut bien regarder les choses quand les gens disent, par exemple, il est parti pour l'argent ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas une équipe pour gagner, ça ne dure que très peu de temps. Donc finalement, au final, et dans la durée, vous ne gagnez pas grand-chose puisque vous êtes remercié assez tôt. Et donc finalement, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre des choses exceptionnelles. Quand je pars en Arabie Saoudite, je sais que cette équipe a le potentiel pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et on réussit à finir premier d'une poule devant le Japon et l'Australie. Quand on voit la qualité du Japon sur cette Coupe du Monde, ça montre quand même qu'on est dans une dynamique positive, qu'on a fait un travail qui est très très bon, mais qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de travail parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà.
Merci beaucoup, Hervé.
Merci beaucoup, Hervé.
Merci à vous.
Et puis bon match demain. Mets ton maillot du Maroc, mais tu ressortiras le maillot de l'équipe de France dimanche.
Allez, bon match à vous.
Merci en tout cas.
Merci, au revoir.